Il est 11h30, Info Mag avec Nicolas Legrand.
La SLN reste fragile, mais l'aide de l'État doit permettre de tenir jusqu'à la fin de l'année. Les responsables de la société faisaient le point sur la situation de l'entreprise ce matin. Le bureau politique du FLNKS, insatisfait de l'accord de Bougival, son avis est très réservé sur le texte signé par sa délégation. Le Front donne maintenant rendez-vous à ses militants le 2 août pour évoquer la suite. Emmanuel Macron et Bruno Retailleau en tête-à-tête la nuit prochaine. Les deux hommes doivent échanger sur le dossier algérien et vous entendrez que leurs relations sont quelque peu tendues. Un nouveau chef d'état-major des armées, le général Fabien Mandon, succède au général Thierry Burkard. Il est le premier aviateur à accéder au plus haut grade de l'armée française depuis 30 ans. Le sport, du cyclisme sur le Tour de France, Jonathan Milan accentue son avance au classement du maillot vert. L'Italien s'est imposé au sprint sur la 17e étape du Tour de France. Profil totalement différent la nuit prochaine dans les Alpes, au programme 3 cols hors catégorie. Bonjour à tous et bienvenue dans Infomag pour tout savoir de l'actualité en Nouvelle-Calédonie, en métropole et dans le monde. Avant de développer tous ces titres qui font l'actualité, ce midi, un coup d'œil au jeudi de l'économie à retrouver à la fin de ce journal. Bonjour Jean-François Bodin.
Bonjour Nicolas.
Magazine consacré cette semaine à l'EGC.
Oui, l'EGC, l'école de commerce, de gestion et de commerce de la CCI. Nous profiterons de la présence actuellement en Calédonie du directeur général des réseaux des EGC, David Barthes, pour faire un point sur le fonctionnement de cette école. Est-ce que la formation qu'elle dispense répond aux besoins des entreprises? Quel est le taux d'insertion des étudiants diplômés? Nous en parlerons avec David Barthes, mais aussi avec David Leclerc, le responsable des écoles de la CCI, d'Ariana Matelon, qui est étudiante en première année à l'EGC, et de Julie Sioux, qui est diplômée de la promotion 2004 et qui travaille aujourd'hui au service RH de l'OPT.
Journal que l'on ouvre avec l'actualité économique également. La situation de la SLN reste très fragile, mais elle est stabilisée. C'est le message que les responsables de l'industriel ont fait passer ce matin. Ce que l'on peut retenir, c'est que la production est en deçà de ce qu'elle devrait être et que la capacité financière donne une visibilité jusqu'à la fin de l'année seulement. Et il reste, Jean-François Bodin, encore de très lourds dossiers à traiter, notamment celui de l'énergie.
Actuellement, Doniambo fonctionne à 75% de sa capacité avec une production de 3000 tonnes de minerais par mois, alors qu'elle pourrait atteindre 4000 tonnes. Si les sites de la côte ouest fonctionnent de façon nominale, ceux de la côte est restent en grande partie à l'arrêt, a expliqué le directeur général de la SLN, Guillaume Curec.
Nos sites de la côte est restent sans production réelle. Nous avons la chance d'avoir le site de Poro Bonini qui alimente un petit peu notre usine de Doniambo. En revanche, tous nos autres sites, le site de Française, anciennement exploité par le centre école du CFTMC, est complètement à l'arrêt. Le site de Kouawa tourne sur mine, mais nous ne pouvons pas évacuer vers le bord de mer et donc pas de minerais ne part de ce site vers l'usine de Doniambo. Et comme vous le savez, la mine de Thiot a été lourdement impactée lors des émeutes. Nous avons repris contact avec les différentes parties prenantes sur Thiot, mené des états des lieux, y compris en présence de la DIMINC, en présence des coutumiers, de la mairie. Et on est en phase de réparation, de reconstruction. Ça va prendre beaucoup de temps. Dans nos priorités, les travaux d'environnement sont à mener urgemment et la réfection de la route municipale doit être également engagée dans les prochaines semaines.
Rappelons que les 184 salariés du site de Thiot ont été placés en chômage après les émeutes. Si les contacts ont repris, il reste encore du chemin avant d'envisager une reprise d'activité sur le site, explique Guillaume Curec.
Il y a encore beaucoup de travail et de conditions qui sont à lever pour pouvoir parler d'une reprise d'activité sur Thiot. On envisage, comme je le disais, une reprise de travaux d'environnement, réembaucher quelques salariés pour permettre ces premiers travaux. Les réparations sont lourdes. Nous devons reconstruire tous les bâtiments, nos réseaux électriques, radio, nos différentes installations, reconstituer des équipes, réparer nos engins. Donc ça va prendre beaucoup de mois. On n'envisage pas de retour à l'activité sur Thiot avant le courant de l'année 2026.
Et cette altération du fonctionnement sur site pénalise donc la production et elle a des impacts financiers.
Nous sommes dans une situation de perte significative. Nous avons eu un soutien de l'État français au mois d'avril qui va nous permettre de tenir jusqu'à la fin de l'année, pas au-delà. Et donc on est d'ores et déjà en train de travailler avec le groupe Eramet, avec l'État sur toutes les possibilités, toutes les options possibles pour sécuriser notre situation sur les 2026 et au-delà.
L'occasion pour Guillaume Curec de rappeler qu'Eramet reste engagé avec la SLN, même si le groupe a annoncé qu'il arrêtait son soutien financier à sa filiale calédonienne. Mais Eramet reste l'actionnaire majoritaire à 56% et soutient la partie opérationnelle de façon significative, a tenu à rappeler le directeur général de la SLN.
C'est notre maison mère qui continue à nous soutenir sans financement direct. Tout le monde le sait et l'a bien compris. Ça a été dit, répété, expliqué. Mais nous soutient opérationnellement de façon très importante avec financement de notre notre ferronickel à peine embarqué sur les bateaux, il nous est déjà payé, avec des lignes de crédit de découvert autorisées extrêmement importantes, avec des facilités de paiement également sur notre dernier bateau de fuel de l'année, qui est quand même pour un montant de 4 milliards chaque année, et donc beaucoup de soutien opérationnel au quotidien de la part de cet acteur industriel. Donc ça ne change pas et c'est toujours en place, heureusement pour nous.
Les responsables de la SLN ont participé avec les autres acteurs de la filière aux réunions qui ont eu lieu en marge des discussions à Bougival, notamment lors du Collège économique et sociétal. L'une des conditions d'une éventuelle reprise du secteur passera par la question de l'énergie. Elle représente aujourd'hui 60% des coûts de production de la SLN. Il faut donc trouver des solutions. Et la centrale à costée temporaire, la CAT, pourrait jouer un rôle de centrale pays, a expliqué Guillaume Curec. C'est l'une des pistes envisagées.
Une des décisions urgentes à prendre est de structurer un soutien sur le coût de l'énergie. C'était déjà au cœur du pacte nickel, c'est toujours l'ultra-priorité pour permettre un avenir de la métallurgie en Nouvelle-Calédonie. La centrale à côté temporaire était là, comme son nom l'indique, de façon transitoire pour 3 ans. Nous avons engagé une enquête publique qui est arrivée à son terme pour prolonger de façon plus durable l'exploitation de cette centrale sur le site de Doniambo. Oui, dans les différentes options, la reprise de cette centrale comme une centrale calédonienne fait partie des possibilités qui permettraient de sécuriser en termes de calendrier, en termes de coûts, le fait de mettre à disposition du territoire un outil de production d'énergie de cette capacité-là. Donc ça fait partie des options, ce n'est pas la seule, mais ça fait partie des discussions. Oui.
Le point positif des échanges de ces derniers mois et dernières semaines, notamment autour de Bougival, explique Guillaume Curec, c'est qu'aujourd'hui les acteurs réfléchissent en termes de filière pour l'avenir et plus seulement en fonction de leur propre développement.
Tous ensemble, on parle de filière nickel. On ne parle plus seulement des situations individuelles de telle ou telle entreprise et on essaye vraiment de trouver l'optimum global pour permettre un avenir de cette filière de transformation en Nouvelle-Calédonie. Des synergies sont obligatoires entre opérateurs. Elles peuvent être difficiles parfois. On en cherche avec Prony. Elles ne sont pas forcément si simples que ça sur le plan technique opérationnel. Nous avons des échanges en termes de pièces, de solutions de maintenance ou autres, mais vraiment sur le flux de minerais, sur la chaîne de valeur elle-même, elles sont assez difficiles. Elles peuvent être plus évidentes avec Koniambo. Et donc, on essaye d'avancer les uns vers les autres pour essayer de regarder ce qui peut se mettre en place, sachant qu'on est tous aussi avec des gouvernances à respecter et des positions à respecter. Donc, ça peut prendre un certain temps, mais on pense beaucoup aux différents salariés qui pourraient maintenir leur emploi ou retrouver de l'emploi en fonction des situations.
Le directeur général de la SLN a présenté ce matin le nouveau secrétaire général de la SLN arrivé début juin à Eramet pour prendre la suite de Nathalie Bakache. Il s'agit de Christophe Léninger. Après une carrière dans le privé, il a rejoint les cabinets des deux premiers ministres Elisabeth Borne puis Gabriel Attal. Il était ces 3 dernières années dans le cabinet du président de la République comme conseiller énergie.
À Radio Rythme Bleu, 11h38.
Le bureau politique du FLNKS émet un avis très réservé sur le projet d'accord signé à Bougival. Il a publié hier soir un communiqué au lendemain de la réunion au cours de laquelle les équipes de discussion avaient restitué aux différents groupes de pression les échanges qu'ils ont eus à Bougival, Elisabeth Noir.
Et en l'état, le projet d'accord de Bougival soulève un avis très réservé des membres du bureau politique. Le BP du FLNKS estime que, même s'il précise la mise en place d'un État de la Nouvelle-Calédonie, d'une nationalité toutefois subordonnée à la nationalité française et de la possibilité d'une reconnaissance régionale et internationale, il est évident que la trajectoire vers la pleine souveraineté du pays manque de perspectives claires. Pour le BP, la trajectoire vers la pleine souveraineté reste entravée d'obstacles, comme le dégel du corps électoral, la modification du nombre de sièges au Congrès au profit de la province sud, la résolution des 64% des élus du Congrès pour le transfert des compétences régaliennes, avec l'omniprésence de l'État à chacune des étapes à franchir. Le bureau politique note également que l'état d'avancement des sujets jugés incontournables pour le FLNKS ne trouve pas de réponse concrète de la part de l'État. Après cet avis très réservé, le bureau politique précise que les groupes de pression réuniront leurs instances respectives ce week-end avant de se retrouver en instance plénière du FLNKS. Ce sera le samedi 2 août pour débattre dans le respect mutuel et pour statuer sur les perspectives de la poursuite du dialogue sur l'avenir du pays. Ce communiqué du bureau politique du FLNKS est signé des représentants des 7 composantes du nouveau front. Il s'agit en l'occurrence de Marie-Pierre Goyetch pour le Parti travailliste, de Laurie Oumouni pour le RDO, d'Henri Juny pour le CNTP, de Sylvain Pabouty pour la DUS, de Dominique Fauchy pour l'Union calédonienne et d'Oriane Trolu pour le MOI.
Merci Elisabeth Noir. Il est 11h passé de 40 minutes. On marque une pause publicitaire avant l'actualité nationale et les armées françaises qui ont un nouveau chef d'état-major. Présentation du général Mandon après la pub.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Le Salon du Tourisme revient le samedi 26 juillet de 9h à 19h au Parc Brunelé à Nouméa. Profitez de l'entrée gratuite pour découvrir les loisirs et les activités touristiques en province sud et bénéficiez d'offres exceptionnelles. Animations, concerts, show cooking, food court et espaces pique-nique seront au rendez-vous. Plus d'informations sur le site de sudtourisme.nc, un événement organisé par l'agence d'attractivité Sud Tourisme.
Votre 4x4 demande de l'aventure? Chez Calais Pneus, choisissez BF Goodrich, la référence des pneus 4x4 tout-terrain en Calédonie. Jusqu'au 23 août, moins 20% sur tous les pneus 4x4 BF Goodrich. Changez, roulez, explorez avec Calais Pneus PK4 et Gonnet. Visitez notre page Facebook.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Nicolas Legrand.
La suite du journal avec cette déclaration, le macronisme s'achèvera avec Emmanuel Macron. Avec ces mots, Bruno Retailleau s'est attiré les foudres du clan présidentiel. Et c'est dans ce contexte tendu que s'est tenu le Conseil des ministres hier soir pour nous à l'Élysée. Certains ministres ont d'ailleurs évoqué une ambiance glaciale entre le président de la République et le ministre de l'Intérieur, ce que Bruno Retailleau dément totalement.
Le Conseil des ministres s'est déroulé totalement normalement. Il y a un gouvernement qui réunit des bonnes volontés, un gouvernement que j'appellerais d'utilité publique, où on a des sensibilités différentes et il faut le respecter. Je respecte évidemment à la fois la personne et la fonction présidentielle parce que je suis gaulliste. Ben, ça ne fait pas de moi un macroniste, chacun le sait depuis longtemps.
Emmanuel Macron et Bruno Retailleau auront l'occasion d'évoquer ce sujet la nuit prochaine puisqu'ils se retrouveront en tête à tête. Les deux hommes doivent échanger sur le dossier algérien. Emmanuel Macron, qui est pour le moment en Allemagne, le chef de l'État a rencontré le chancelier Friedrich Merz. Au cœur des échanges, plusieurs dossiers brûlants, la défense européenne ou encore les futurs droits de douane imposés par Donald Trump. Emmanuel Macron, qui a aussi félicité et remercié le chef d'état-major des armées, Thierry Burkhard. Après 4 années de service, il est remplacé par le général d'armée aérienne, Fabien Mandon. C'est le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, qui a annoncé sa nomination ces dernières heures. Ce proche d'Emmanuel Macron est le premier aviateur à accéder à cette fonction depuis de nombreuses années. Laura Legault pour Europe 1.
Oui, Fabien Mandon est le premier pilote de chasse à accéder à cette fonction depuis 30 ans. À 55 ans, le général le plus gradé ne compte aucun militaire dans sa famille, une rareté dans le métier. Au Tchad ou en Afghanistan, il a effectué une centaine de missions de guerre à bord de Mirage avant de basculer du côté du commandement. Pendant 2 ans, il est à la tête de la base aérienne d'Avor dans le Cher. En 2020, il est nommé chef du cabinet militaire de la ministre des Armées. Et 3 ans plus tard, le général Mandon devient le chef d'état-major particulier du président. Dernière étape d'un parcours complet, selon Jean-Paul Paloméros, général de l'armée de l'air.
C'est un excellent profil. Il a toutes les cordes à son arc, il a été opérationnel. Les 2 derniers postes ont été extrêmement importants parce que le chef de cabinet militaire, le ministre, ben, il voit tout, il sait tout. Et puis, le poste de chef d'état-major particulier, c'est un poste qui est très proche de la décision, qui est même une aide décisionnelle au profit du président. Je suis sûr que général Mandon sera à la hauteur de ce défi considérable.
Et la première mission du général Mandon sera de déployer le budget de la défense, un budget revu à la hausse. Le 13 juillet dernier, Emmanuel Macron a annoncé 6 milliards d'euros supplémentaires d'ici 2027, dans un contexte géopolitique plus tendu que jamais.
Laura Legault pour Europe 1. En bref, justement, les chefs des délégations russes et ukrainiennes s'entretiennent en tête-à-tête à Istanbul. Elles ont lancé des pourparlers en vue d'un accord de paix entre les deux pays. L'actualité judiciaire en métropole est la dernière compagne de Cédric Jubilard, entendue par les enquêteurs la nuit dernière. Dans 2 mois, l'accusé sera jugé pour le meurtre de sa femme Delphine en 2020. Au cours des derniers mois, sa dernière compagne aurait recueilli des aveux lors de ses visites au parloir. Elle a d'ailleurs donné des éléments sur le passage à l'acte présumé de Cédric Jubilard qui aurait affirmé avoir étranglé sa femme. En revanche, elle n'aurait pas donné plus d'éléments sur le lieu où se trouverait le corps de la victime. Enfin, une nouveauté en métropole pour mieux protéger les propriétaires face aux mauvais payeurs. Depuis le 1er juillet dernier, ils n'ont plus à entamer une procédure en justice, longue et coûteuse, pour obtenir que les loyers soient prélevés directement sur le salaire de leurs locataires. La nouvelle méthode est bien plus simple aujourd'hui, Barthélémy Philippe.
Oui, la nouvelle législation permet aux propriétaires d'éviter la case tribunal. À la place, il pourra faire appel à un huissier de justice. Si les conditions sont remplies, ce dernier ordonnera la saisie d'une partie du salaire du locataire qui sera versée aux propriétaires par l'employeur. Un changement qui sécurise les propriétaires sans mettre en difficulté les locataires de bonne foi, selon Henri Buzicazo, membre du Conseil national de l'habitat.
Le constat de l'impayé étant fait, le propriétaire va saisir le commissaire de justice qui va envoyer un commandement de payer et le locataire a 1 mois pour payer ou pour discuter avec son propriétaire. Il peut y avoir un accord d'étalement parce que la situation du locataire est difficile. Et encore une fois, le dialogue dialogue est privilégié.
En cas d'échec de cette phase de conciliation dans les 3 mois, l'huissier pourra ordonner une saisie sur salaire. Bien entendu, le barème protège les locataires. Exemple, pour un célibataire qui gagne 1500 euros par mois, la saisie mensuelle ne peut excéder 260 euros.
Barthélémy Philippe pour Europe 1. Il est 11h passé de 46 minutes. Vous écoutez Radio Rythme Bleu. On marque une nouvelle pause dans ce journal avant de voir la suite de l'actualité en Nouvelle-Calédonie et notamment cette journée découverte des métiers au Medipôle.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
Du 24 au 27 juillet à la Maison des Artisans de Nouville, place aux saveurs et aux traditions. Un salon pour les gourmets et les gourmands, avec des produits du terroir, des délices faits maison, des animations savoureuses, un vrai festin pour les papilles. Du 24 au 27 juillet, ne manquez pas ce rendez-vous 100% saveur, 100% tradition. Une organisation de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegale@rrb.nc ou au 25 46 46. Toute l'info en 3 lettres, RRB.
Infomag, la suite de l'actualité sur le territoire, on retrouve Nicolas Legrand.
Et en bref, tout d'abord, le Poney Club de L'Étrier à Rivière-Salée, vandalisé, cambriolé, même ce week-end, on vient de l'apprendre. Dans la nuit de samedi à dimanche, des témoins ont pu apercevoir une vingtaine de personnes sortir du site. Les voleurs ont forcé un volet métallique du clubhouse avant de vider la totalité des frigos et congélateurs. Une enceinte portable a également été volée. La chasse à la roussette, c'est stop. La gendarmerie de la Nouvelle-Calédonie communique ce matin sur ses réseaux sociaux. Un contrôle s'est tenu à Koné pour lutter contre le braconnage d'espèces protégées. Bilan de ce contrôle coordonné avec les gardes nature et les douaniers. Une seule infraction constatée pour chasse interdite et 2 roussettes saisies. Et ce, sur les 23 véhicules et 23 personnes contrôlées. Pour rappel, la chasse à la roussette n'est autorisée que les week-ends du mois d'avril. Je l'évoquais avant la publicité, cette journée découverte au Medipôle, des professionnels du milieu hospitalier sont réunis pour présenter leur métier à des jeunes lycéens. Sur le territoire, ce sont près de 3000 personnes qui travaillent dans ce milieu, dans les domaines du soin, mais pas seulement. Professionnels dans la technique, dans la sécurité, dans le paramédical, de nombreux métiers sont méconnus, d'où l'importance de cet événement qui met en lumière la diversité des métiers hospitaliers, selon Emmanuel Kuhn, la directrice adjointe du CHT.
C'est vrai que dans un hôpital, il y a à peu près 70% du personnel, ce qu'on appelle les blouses blanches. Donc effectivement, ce sont des soignants. Et dans ces soignants, il y a également beaucoup de spécialités. Nous pouvons avoir, par exemple, des infirmiers du SMUR. On a également des infirmiers en diabéto. Il y a beaucoup de spécialités que l'on ne voit pas forcément. Ce sont des métiers qu'on aimerait mettre en avant. Il y a également, je pense, à la stérilisation, aux techniciens de laboratoire. Et les 30% restants sont également tout ce qui est lié à la logistique, au service support. Donc effectivement, tous ces métiers-là sont également essentiels à l'hôpital. Et c'est vrai que ce sont donc des métiers pérennes, parce que hélas, il y aura toujours des gens à prendre en soin. Dans 5 ans, dans 10 ans, ces métiers seront toujours là.
Une trentaine de professions représentées aujourd'hui, allant de l'infirmier au technicien de laboratoire, en passant par le brancardier. Autant de professions qui ont attisé la curiosité des lycéens de terminale.
Il y a des examens ou c'est vraiment la fin de la troisième année?
La formation, c'est sur 3 ans. Tu as 2 semestres par an.
On est venu se renseigner sur les métiers pour notre futur. Alors c'est net cette journée parce que moi je ne savais pas qu'est-ce que je voulais faire plus tard et du coup ça m'a informé de plus, ça m'a donné des informations.
Le stand d'infirmière, déjà c'est un métier qui m'intéresse beaucoup, comme c'est dans le domaine de la santé.
T'as posé pas mal de questions?
Oui, surtout pour Parcoursup parce qu'on ne sait pas trop s'ils sont très sévères ou si c'est comment, mais ils nous ont un peu rassurés, du coup ça nous pousse à aller au Parcoursup aussi.
Là la dame avec qui tu discutais, elle est étudiante?
Oui, étudiante en 3e année. Elle nous a donné des conseils, elle explique très bien, elle nous a bien motivés.
Il y a beaucoup de personnes qui nous donnent des informations sur les métiers, c'est incroyable. Ça m'a donné beaucoup d'idées, quoi. J'avais déjà une idée en tête, ça me donne plus envie de faire des choses.
Des propos recueillis par Charlotte Coulson, les jeunes ont aussi pu échanger avec les instituts de formation, notamment l'IFPSS et l'Université de la Nouvelle-Calédonie. La journée découverte continue jusqu'à 16h au Medipôle. Le salon Saveurs et Traditions a ouvert ses portes à la Maison des Artisans ce matin, route de Nouville. Plus d'une cinquantaine de professionnels vous attendront pour aujourd'hui avec des dégustations et des animations. Les gourmets sont attendus de 9h à 16h. Aujourd'hui, demain et samedi, dimanche, le salon ouvrira ses portes de 9h à 14h30. L'entrée est gratuite. Et puis Sud Tourisme veut relancer l'activité touristique en province sud. L'agence de développement organise un salon samedi prochain au parc Brunelet. Il regroupera 80 prestataires du secteur et nous en avons parlé ce matin avec Eugénie Carlet, Merlot, la responsable attractivité, communication et marketing à Sud Tourisme. Elle était notre invitée du matin à 7h30.
C'est un événement qui est attendu beaucoup par le secteur touristique. On a décliné une campagne qu'on a lancée il y a quelques temps autour du thème « Pas besoin d'aller loin pour ». Là, c'est pour se retrouver. C'est un peu une invitation finalement aux Calédoniens à redécouvrir l'offre touristique en province sud. Le tourisme est un trait d'union, c'est un lien entre les habitants et leur territoire. Et là, pour accompagner cette relance, plus que jamais, on a besoin d'un rendez-vous qui va permettre à tout le monde de se réunir, de se retrouver dans une belle ambiance.
Donc samedi, on va retrouver 80 prestataires touristiques dans tous les domaines ?
Oui, dans tous les domaines d'activité, que ce soit des activités de plein air, des activités nautiques, différents loisirs, on aura de l'hébergement, de la restauration, du transport. Ça va être vraiment une... Toutes les activités sont représentées. Alors, c'est aussi l'occasion de bénéficier d'offres promotionnelles, de tarifs attractifs.
Rendez-vous donc de 9h à 19h au parc Brunelet samedi pour ce salon du tourisme. Vous retrouverez de nombreuses animations et pourrez participer à des jeux concours pour remporter des activités touristiques.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et avant de refermer cette page, c'est l'heure d'opinion. Votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. L'adoption d'une charte de la vie nocturne peut-elle, selon vous, contribuer efficacement à la lutte contre l'alcoolisme ? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. La réponse à notre question d'hier maintenant, au lendemain du forum qui s'est réuni à l'UNC, 65% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que la Nouvelle-Calédonie est suffisamment préparée au changement climatique. Ils sont donc 35% à penser que ce n'est pas le cas. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour. Il est 11h52, vous écoutez Radio Rythme Bleu. On va marquer une dernière pause dans ce journal avant de voir toute l'actualité sportive en compagnie de Léo Fichou. Au menu, le Tour de France en métropole, mais aussi un tournoi de pelote basque à Nouméa.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, Agence Ixone, Magenta, à côté de Mazda.
Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, Agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Du 4 au 27 juillet, c'est l'anniversaire chez Gémeaux Chaussures et Vêtements. Rendez-vous en magasin, scannez un QR code et tentez de remporter instantanément un bon d'achat de 500 à 10 000 francs. Vous n'avez pas gagné ? Vous participez au tirage au sort final, vous permettant de repartir avec 3 voyages pour 2 en Australie, soit un total de plus de 1,5 million de francs de cadeaux. L'anniversaire Gémeaux, du 4 au 27 juillet, c'est aussi des prix de folie avec des remises jusqu'à 50% sur une large sélection d'articles.
Gémeaux, taillé pour la vie de famille.
Jeux sans obligation d'achat. Règlement disponible chez Maître Burigna.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Nicolas Legrand
et le Tour de France.
Air Canin vous présente le Tour de France. De Nouméa à Paris, 3 vols par semaine via Singapour et 3 vols directs via Bangkok à partir de 191 000 francs TTC.
Il a su dompter la pluie sur la 17e étape. Jonathan Milan a dompté aussi le chaos et il s'est imposé dans un sprint réduit, Léo Fichou.
Et oui, sous une pluie fine, la 17e étape a offert un scénario que les spectateurs apprécient, un peu moins les coureurs. Dès les premiers kilomètres, c'est un classique. Sur les étapes de plat, une échappée se dessine, mais le peloton contrôle pendant 150 km avant de les rattraper à quelques kilomètres de l'arrivée. Un sprint massif se dessine alors, mais sous la flamme rouge et sur une route détrempée, c'est le drame. Grosse chute qui met plusieurs sprinteurs à terre, notamment Tim Merlière et Binyam Guirmé. Dans ce chaos, le porteur du maillot vert, Jonathan Milan, évite le piège et s'impose dans un sprint réduit.
Oui, ça a été un final d'étape où on a dû vraiment s'employer. Mes coéquipiers m'ont placé parfaitement dans un final assez difficile. Bon, c'était difficile de mettre notre train de lancement en place comme on voulait, mais on a pu faire un bon final. Et comme je l'ai dit, mes coéquipiers m'ont vraiment placé idéalement et je suis très heureux de ce résultat.
Au classement général, pas de changement. Tadej Pogacar possède toujours plus de 4 minutes d'avance sur Jonas Vingegaard et 9 minutes sur Florian Lipovic. Le premier français, Kevin Vauclin, est 6e à plus de 13 minutes du leader.
Et ce soir, une étape redoutable attend les coureurs. 171,5 km dans les Alpes avec 3 ascensions hors catégorie et notamment la montée finale vers le sommet du col de la Loz. Départ à 21h20, heure de Nouméa. du football avec l'Euro féminin et on connaît désormais l'affiche de la finale. L'Angleterre affrontera l'Espagne, Léo.
Oui, un remake de la finale de la Coupe du Monde 2023 remportée 1-0 par l'Espagne. Les Espagnols sont venus à bout ce matin des Allemandes en demi-finale. Une victoire sur le plus petit des scores, 1-0 grâce à une réalisation à la 113e minute de jeu de Bonmati, Ballon d'Or en 2023 et 2024. L'Espagne affrontera donc l'Angleterre, tombeuse de l'Italie, c'était hier, 2-1. Une finale qui se jouera dans la nuit de dimanche à lundi.
Et puis le sport sur le territoire, Léo, avec un tournoi de pelote basque organisé depuis hier et jusqu'à demain à Nouméa.
Une vingtaine de joueurs et de joueuses aussi sont engagés dans ce tournoi Léon. Clin d'œil au roi Léon, personnage emblématique des fêtes de Bayonne. Un événement organisé par l'Amicale du Pays Basque et des Amis du Sud-Ouest. Hier soir, les parties de poules ont débuté avec la série féminine. Elles sont trois équipes de deux en lice. Écoutez.
Alors on s'entraîne une fois par semaine. C'est vrai qu'on le compare souvent entre un mix entre le tennis et le squash. C'est un petit peu ça. Il faut être rapide et avoir un peu de force dans le bras.
Je joue à la pelote basse depuis 5 ans. Les féminines, on n'est que 3 équipes. Donc je serai au moins 3e. Mais les niveaux sont assez équilibrés. En plus, on se connaît toutes. Donc on connaît nos points forts, nos points faibles. Non, ça va, on verra, oui.
Quoi qu'il arrive, on espère toujours aller jusqu'au bout.
Les demi-finales et les finales se dérouleront demain soir au Fronton à Nouméa. Le tournoi qui marque le début des férias de Bayonne, célébré par l'Amicale sur le territoire.
Merci beaucoup Léo Fichou. C'est donc la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi.